Comme tout le monde, même si on est en vacances, j'ai quand même des échos de la rumeur du monde. Appelez ça comme ça. Hein. Et il y a une chose qui m'a interpellé et qui m'énerve un peu, vous savez, qui m'irrite. Et j'ai appris une chose, c'est que quand quelque chose m'irrite, c'est les autres. C'est parce que c'est un défaut qui est en moi, et c'est pour ça que je le vois chez les autres et que ça m'irrite. Hein. Donc c'est dans cette idée-là que j'en parle, et en observant autant ce qui se passe dans la vie politique de mon pays d'origine, mais aussi dans d'autres endroits, j'ai été impressionné par la vanité et l'arrogance des êtres humains. Et quand je pensais à ça, j'avais cette phrase en tête, « La vanité est mère d'arrogance ». Elle avance tête haute, son petit menton en avant. C'est nous. Et puis, j'avais cette méditation en cours avec plein de textes. Et hier, je devais aller faire une petite course vite fait, chercher une lame de tondeuse. Si vous voulez l'histoire longue de comment on a démonté la vis de la tondeuse, si vous avez 3-4 heures à disposition, voyez Eric, il va vous raconter. Et je revenais avec ma gentille Dacia, et tout d'un coup, je me dis, mais il y a de l'orage ou quoi ? Et j'entends derrière moi une espèce de bruit. Alors, excusez-moi pour les amateurs de sport mécanique, j'aime pas ça. Hein. Pour moi, c'était vraiment un bruit agressif. Je n'ai pas limité, mais c'est une espèce de gros bruit de moteur qui était juste derrière moi. Et puis, je me suis fait suivre un moment avant de me faire boum, doubler, etc. Et en rentrant, ça m'avait fait rire. Et comme j'étais dans ce thème-là, j'ai écrit ce petit texte qui nous servira d'introduction. J'ai croisé la route de la vanité, enfin pour être plus précis, bruyamment, elle me suivait. Elle se déplaçait, je dis elle, mais il s'agissait d'un représentant mâle de l'espèce humaine. Dans une boîte de métal poli dotée de 4 roues, une boîte large comme un éléphant, longue comme une girafe couchée, mais qui pourtant lui laissait juste assez de place pour s'asseoir. Il produisait autant de bruit que les chutes du Niagara, consumait plus d'énergie fossile qu'un porte-avions français et faisait plus de mal à la couche d'ozone que 100 000 vaches qui souffrent d'aérophagie. Sa boîte roulante ne pouvait pas tirer une charrue pour nourrir les humains, elle ne pouvait transporter des marchandises d'un point A vers un point B, elle ne pouvait contenir qu'un deuxième passager, à condition qu'il soit de petite taille et sans bagages. Elle n'avait d'autre utilité que de déplacer, de la façon la plus ostentatoire qu'il soit, un minuscule être humain et son immense vanité. Finalement, imbu de lui-même, de sa supériorité, il nous a dépassés, Madacha et moi, dans un rugissement féroce et démesuré. Il m'a regardé avec mépris, condescendance, peut-être même un peu de pitié. Content de lui-même, l'imbécile, il souriait. En fait, là, dans ce cas-là, ben, moi, j'étais... le gentil, lui, le méchant, mais c'est de moi que ça parle. Dans l'Ecclésiaste, sans arrêt, on a cette phrase qui revient, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vain. » Et puis, c'était un de mes livres de la Bible préférés quand j'étais ado, quand j'avais à peu près ton âge, pré-ado, et que j'aimais lire. Et beaucoup de textes de la Bible m'ennuyaient, mais l'Ecclésiaste, j'aimais beaucoup. J'aimais aussi le Cantique des Cantiques, mais ça, c'est autre chose. Et puis, vanité des vanités. Littéralement, la vanité, c'est quand quelque chose est plein de rien, plein de vide. Dans le Nouveau Testament, il y a une expression qui revient souvent, par exemple, elle est utilisée pour dire que l'amour n'est pas comme ça. Hein. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et quand on regarde dans le texte original, comme c'est écrit, ça parle de quelque chose qui a grandi, qui s'est développé, donc ça pourrait être bien, mais à l'intérieur, il y a du vide. C'est, voilà, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas la vie. Et en fait, c'est un peu le souci des humains, parce que nos vies sont pleines de vide, et on cherche à oublier, on cherche à le cacher, on cherche à se... Hein, parce que quand on est vide à l'intérieur, quand cette vanité qui se manifeste de façon parfois comique, parfois ostentatoire, mais des fois qui peut prendre la forme surtout dans les milieux chrétiens, religieux, d'une fausse humilité. Hein. C'est la même chose. Hein. Vous savez, les gens qui se promènent en disant « Oh, mais je ne mérite rien, je ne vaux rien, je suis misérable, je ne méritais même pas que... » C'est aussi de la vanité et de l'orgueil. Hein. Parce que c'est faux. Et puis, c'est juste quelque chose qui... une autre traduction d'une même réalité. Je suis vide à l'intérieur. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On voit déjà dans le prophète Jérémie, hein, longtemps avant que le Christ vienne. Donc déjà, le Christ, ça fait un moment qu'il est venu, donc ça fait très longtemps. Hein, qui nous disait... Hein, j'ai dit Jérémie, c'est Ésaïe. Et j'ai mélangé comme d'habitude mes références. Hein, et en plus, j'ai oublié de la noter. C'est bien. J'ai même oublié carrément le verset, mais ça ne fait rien, on se rappelle ce qu'il dit. Hein, venez sans argent, venez sans payer et achetez de la nourriture qui nourrit. Hein. Et en fait, je l'ai repris avec ce que Jésus qui parle. Alors si je l'ai, Ésaïe 55, vous voyez un peu mon cerveau comment il va. Hein. Il n'y a pas que l'intérieur qui est vide, là aussi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Et lorsque Jésus parle à ses disciples dans Jean 6, il dit, ça c'est après qu'il ait multiplié des pains, hein, donc les gens le suivaient parce que waouh, free food, un boulanger gratuit, c'est cool. Il y avait même un poissonnier, puisqu'il y avait aussi des poissons. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Et avant que je continue cette lecture, je veux juste rappeler, pour ceux qui sont là régulièrement, vous le savez, je répète toujours les mêmes choses, comme ça, pour le moment, on s'en rappelle. Hein. La vie éternelle, ce n'est pas une vie sans fin, même si elle est sans fin. Ce n'est pas la vie après la mort, même si elle continuera après notre mort physique. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est celle qu'on vit quand on arrive à attraper le présent et à être dans la présence de l'éternel présent du Christ. Dans ces moments où je suis connecté à lui et j'en suis conscient, je suis dans la vie éternelle. Et il y a des moments où je ne suis pas conscient et j'y suis quand même dedans et elle est là, hein, parce qu'elle est toujours là. Mais moi, je la rejoins quand je peux. Hein. Pour nous, les humains encore sur Terre, on est comme les cétacés. Alors non, j'ai traité personne de baleine ou de cachalot ce matin. Hein. On vit dans l'eau, mais on a des poumons. Donc, vous savez comment font les baleines, elles vivent sous l'eau la plupart du temps, mais elles doivent respirer. Et puis elles repartent, elles sont bien sous l'eau, mais elles doivent respirer. Et nous, les humains, on est comme ça. On est ici, on vit sur Terre, mais on a besoin de respirer cette vie éternelle qui n'est pas juste pour « Ah, la récompense pour ceux qui ont été gentils après la mort ». Non, c'est pour maintenant. Et en fait, la seule chose qui rassasie nos âmes, c'est cette nourriture-là. Donc maintenant, avec ça en tête, je relis ce que Jésus dit. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donne ». Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et donc là, les gens qui l'écoutent, c'est les théologiens. Hein, c'est des gens, ils savent la Bible par cœur. Ils peuvent vous dire dans un chapitre de l'Ancien Testament combien il y a de lettres, où se trouve le mot du milieu, quel est le premier, quel est le dernier, combien de fois il y a la lettre, machin, truc. Ils ont passé leur vie à rien faire d'autre. Hein. Ils ont des serviteurs, des femmes qui travaillent pour eux. Ils ne faisaient que étudier les textes. Hein. C'était des sacrés feignants. Hein. Ils savaient tout dessus, mais ils ne savaient rien. Hein. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, question de spécialiste, de professionnel. Hein. Et Jésus leur répond, vous connaissez la suite. Hein. L'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez faire confiance à celui qui l'a envoyé. Je traduis volontairement pas croire en celui qui l'a envoyé, parce que pour nous, au XXe siècle, croire, on veut dire croire qu'il existe. Mais là, il y a des gens qui sont en train de parler avec lui. La question n'est pas de savoir s'il existe. Et forcément, il existe, on parle avec lui. Hein? Mais est-ce que je fais confiance à ses paroles? Est-ce que je place ma confiance en ce qu'il dit? Est-ce que je crois qu'il est celui qui dit? Là, oui, croire. Hein? Pas juste qu'il existe. On a tellement fait une caricature triste de l'évangile, il faut que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Super, ça change croix. Hein, il faut que vous croyiez que telle personne est président de tel pays. Oui, je le crois. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment qu'il faut savoir l'information. Mais est-ce que je sais qui il est? Est-ce que je veux faire confiance à ses paroles pour expérimenter la réalité de ce qu'il dit? Si croire veut dire ça, alors oui, on peut utiliser croire. Hein. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est de placer sa confiance en lui. Et là, il lui répond, mais qu'est-ce que tu fais pour nous prouver ça? Quel miracle tu fais? Parce que chez les Juifs, les preuves, c'était les miracles. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on prouvait que c'était vrai. Si un prophète est un vrai prophète, il fait un miracle, ça valide le truc, c'est fait. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ça? Et Jésus répond, parce que nos pères, bon, ils expliquent, oui, nous, on a eu des vrais prophètes comme Moïse, hein, il a la manne dans le désert, etc. Et Jésus leur dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, il vous a donné à manger, comme moi quand j'ai multiplié les pains, et c'est pour ça que vous me suivez. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Bah, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui place sa confiance en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. La différence entre un homme qui vit, un être humain qui vit dans la vanité et un qui ne vit pas à un moment, hein, parce qu'on y est tous et on y va et on en sort, hein, ben, je ne suis pas vide. Je ne suis pas enflé de rien du tout quand je suis nourri de ce pain du ciel, quand je suis abreuvé de cette eau. C'est pour ça que, comme je l'ai dit plusieurs fois récemment, Jésus n'a pas dit « je connais la vérité, je détiens la vérité, je vais vous dire quelle est la vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Ce n'est pas quelque chose qu'on peut posséder. On ne peut pas posséder Christ. On peut le rejoindre, on peut l'inviter. On peut l'accueillir, on peut s'y perdre dedans. Hein. C'est toujours l'histoire de ma petite bouteille qui s'est perdue au fond de l'océan. Elle est minuscule, elle est au fond de l'océan, mais elle est remplie d'eau salée parce qu'elle était ouverte. Et elle dit, je suis dans l'océan et l'océan est en moi. Est-ce qu'elle contient l'océan? Évidemment, non. Mais elle est dans l'océan et l'océan est en elle. Hein. Et c'est une des images que je préfère pour parler de nous et du Christ. Je suis en lui. Petite bouteille minuscule, toute un peu fêlée, un peu abîmée, avec l'étiquette qui est à moitié décollée, avec hein, et encore un petit peu le tour là qui n'est pas trop truc, il reste quelques gouttes de je ne sais pas quoi au fond. Mais je suis en lui et il est en moi. Et dans ces moments-là, il n'y a plus de vanité dans ma vie, c'est-à-dire il n'y a plus de... c'est pas vide dedans. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'autre, la bouteille c'est toujours la bouteille. Je ne suis pas devenu meilleur, moins bon, parfait, pas parfait, juste... je suis rassasié. Et l'étape d'après, c'est que le miracle de cette vie éternelle, elle se multiplie comme tout ce qui est vivant. Une graine, ça fait plein d'arbres. L'arbre, il fait des fruits et les fruits font des... Et puis c'est pareil comme ça. Les gens ont des enfants, les oiseaux aussi, les animaux. Tout ce qui est vivant se multiplie et la vie se multiplie. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui placent leur confiance en moi, donc si on paraphrase... ceux qui se nourrissent du pain de vie que je suis et qui boivent l'eau éternelle que je suis, qui vivent dans la conscience, dans la présence, dans l'énergie de cette vie éternelle, des fleuves d'eau vive couleront d'eux-mêmes. C'est ça l'évangile. Jésus n'a jamais dit « allez, bâtissez des bâtiments, faites des cloches, payez des pasteurs, faites des habits spéciaux, même si, comme les habits, ça sert d'auto, hein, ça peut remplacer la voiture qui pollue, mais bon, ce n'était pas la bonne solution. Hein, » Non, il a juste dit « venez, mangez-moi et buvez-moi. » Ce qui, dans une culture où on ne pouvait même pas manger le sang des animaux, hein. Puis là, c'est un être humain, il leur dit « si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, c'est... » C'était le truc le plus choquant qui puisse être dit. Mais pourquoi? C'était une tentative, j'allais dire désespérée, non, Dieu n'est pas désespéré, de faire exploser leur compréhension rationnelle des choses où ils maîtrisaient tout. On connaît, on a l'Ancien Testament, on a ci, on a ça, l'agneau, le sacrifice, le sang, le truc, le bazar, le bidule, le l'hysope, le machin, les couleurs du temple, du tabernacle, les rideaux, le truc. Là. Il savait tout, il savait tout. Et lui, il veut juste trouver le chemin de leur cœur. Et il ne peut pas, parce qu'ils sont remplis de vide, mais ils sont verrouillés dans leur compréhension, leur tradition, leur immobilisme. Ils sont pétrifiés dans le sens littéral du mot, hein, transformés en pierre. Et du coup, il tente le tout pour le tout. Il leur dit des choses inécoutables, violentes. Hein. Quand il traite ces gens-là de sépulcre blanchi, ça nous fait rire, hein. T'imagines si tu disais à ton frère, quand tu te disputes, espèce de sépulcre blanchi. Ouais, c'est quand même mieux que de dire, bon, je dis pas, autre chose. Hein, ouais, il y a des enfants ce matin. D'accord. Mais il faut comprendre que dans la culture, quand il les traite de serpent, de sépulcre blanchi, d'ossement, etc., c'est beaucoup plus violent que tout ce que vous pouvez imaginer dans le langage le plus ordurier que vous pouvez imaginer dans le rap le plus vulgaire ou plus... Hein. Non, non, c'est vraiment un truc incroyable parce que c'est des insultes religieuses, quoi. Hein. Et il dit ça pourquoi ? Jésus, il aime ces gens-là comme les autres. Hein. Il les aime, il pleure même pour eux. Mais c'est voilà, au bout d'un moment, la carapace est tellement dure, le pistolet à fronde s'arrête dessus, la fronde, le pistolet à main, il essaie la bombe atomique pour casser cette gangue de pierres. Hein, et il les provoque. Il vous faut manger mon corps et boire ma chair. Et c'est incroyable que le christianisme soit devenu la religion de la respectabilité. Il ne faut pas choquer. Pour être un bon témoignage, il faut tout faire tout bien comme il faut. Hein, tout bien propre en ordre, comme j'ai appris dans la vallée, on dit. Hein, voilà. Hein, la barrière, elle est blanche, elle est peinte, l'herbe, elle est taillée, les machins sont alignés, tout est propre, on ne met pas les doigts dans le nez, on ne met pas les coudes sur la table, on dit bonjour monsieur, on dit merci madame, on est des bons chrétiens. Et le monde saura que nous sommes chrétiens et aura envie de devenir aussi morts et ennuyeux que nous. Non, on n'est pas envie. Hein ? Non. Jésus, il vient et c'est une tornade. Il rentre dans la Banque nationale et il prend un fouet et il fait péter les coffres. Pas pour le ramasser, même pas pour le distribuer aux pauvres. Hein ? Juste en disant, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est pour ça que je reviens quand même au sujet des arrogants de ce monde qui nous dirigent. Et je fais une grande différence entre les gens comme le président de mon pays et d'autres pays. C'est juste des méchants dirigés par l'argent. Ok, le monde est plein de méchants dirigés par l'argent. Je suis un méchant aussi. Ce qui est grave, c'est ceux qui font ça et qui disent le faire au nom de Dieu. C'est les seuls qui ont mis le Christ en colère. Les autres, ben, il fait avec, voilà. Hein. Mais ceux-là, il prend le fouet et il se met en colère. Et je trouve que des fois, on devrait se mettre en colère, nous aussi. Pas contre eux, oui, le mal, oui, d'accord, mais le mal, on est tous mauvais. Hein. Mais ceux qui font le mal et qui disent « je le fais au nom de Dieu ». Toute ressemblance avec un personnage existant serait purement fortuite. Veuillez nous en excuser. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est juste quand Philippe fait le mal, et je le fais malheureusement trop souvent, c'est Philippe qui fait le mal. Mais je dis pas, c'est Dieu qui m'a dit de, et je représente Dieu. Non, j'ai même honte parce que, ben voilà, c'est moi. C'est, ben... Et je dis juste, aussi mauvais que je suis, Dieu m'accepte comme ça. Ça, c'est autre chose. Hein. Et bien sûr, j'aimerais devenir meilleur et j'espère progresser encore un petit peu avec les quelques temps qui me restent. Mais c'est un autre sujet. Donc, ce dont on a besoin, c'est de manger et boire cette vie éternelle. Et pour ça, en fait, il y a une question qui est essentielle parce que je suis toujours dans mon lien avec l'arrogance et la vanité. C'est pour ça que j'ai confondu Ésaïe et Jérémie tout à l'heure. Hein. Dans Jérémie 17, 12, il y a cette belle phrase. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Alors, c'est du vocabulaire un peu religieux. Hein. Mais qu'est-ce que c'était un trône ? C'était le symbole du pouvoir. Hein. S'asseoir sur le trône, c'était montrer de façon visible dans les cultures des rois, que c'est moi le roi. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, là, ils se battent tous pour y monter dessus, ils s'étripent entre frères, le frère veut tuer son frère, le père veut tuer son fils, le fils son père. Pour qui c'est qui va s'asseoir sur ce siège, quoi, qui est aussi ridicule que la grosse voiture qui va doubler hier, mais voilà. Mais en fait, il est un trône de gloire depuis le commencement, et toute l'histoire dans laquelle nous sommes nés est liée avec ça. Parce qu'un jour, il y a une des créatures, alors c'est un mystère pour nous, c'est quoi les anges, j'en sais rien, les esprits, ils n'ont pas de corps, c'est des machins. Mais une des créatures a dit, je veux m'asseoir à la place du chef. Vous connaissez la bande dessinée Is No Good, celui qui voulait être calife à la place du calife, voilà. En fait, il y a quelque part une créature qui a dit, ouais, je suis grand, je suis beau, je suis fort, je suis tout ce que je suis, mais en fait, il n'y a qu'une place qui me plaît, c'est celle-là, là. Ce trône, je veux m'asseoir dessus. Et ça, c'est l'histoire de toutes nos vies. Et en fait, dans chaque être humain, il y a un trône qui est libre. Bon, il n'est pas libre parce que je suis assis dessus. Mais il y a un trône qui est là. Et la question, c'est qui va s'asseoir dessus ? Ben, normalement, c'est moi. Ben, forcément, c'est mon trône. Sauf que quand c'est moi qui m'assois dessus, ben, je suis comme le monsieur que j'ai décrit dans la voiture qui m'a doublé hier, quoi. C'est moi. Puis je double les autres et je suis là. Sont ridicules. Non, c'est moi qui suis ridicule dans ma vanité. Parce qu'en fait, la seule chose intelligente que je puisse faire avec ce trône, pour moi, être heureux, être en paix, être rassasié, ne plus avoir faim, ne plus avoir soif, c'est descendre et librement dire à Christ, tu sais quoi, je pense qu'il te va mieux qu'à moi. J'aimerais que tu t'assoies dessus. Ce qui est incroyable, c'est que si on fait ça, il nous dit, tu sais quoi, je pense qu'il est assez grand pour deux, viens t'asseoir avec moi. Mais tant que j'y suis, il n'y a pas de place pour lui. Parce que quand moi j'y suis, par contre, il n'est pas assez grand pour deux. C'est un trône un peu magique. Si moi j'y suis, il prend la forme de ma forme à moi. Voilà, je ne l'avais pas dit. Il s'adapte. Nous prenons la forme de vos besoins. Pof. Mais si je descends et je dis à Christ, en fait, tu sais quoi, j'ai compris une chose. J'ai été créé pour vivre autour de toi. Et puis, je t'ai éjecté, j'ai pris la place, et maintenant, c'est boiteux. Le début de l'histoire, dont vous aurez la fin avec Eric si vous lui demandez, pourquoi il a fallu démonter la vis de la tondeuse à gazon, parce que, pas intelligemment, j'ai tondu dans l'herbe, et je savais qu'il y avait une grosse pierre, mais je l'ai oubliée, et j'ai cassé ma lame, d'un côté, tout près de l'axe. Et donc ça a fait du bruit, mais comme j'ai l'habitude de prendre des fois des pierres avec ma tondeuse, elle est costaud, elle est gentille, j'ai cru que je pouvais continuer. Et quand je l'ai redémarrée, vous savez ce qui s'est passé ? Elle faisait... Pourquoi ? Parce qu'il manquait un morceau de la lame. Alors ça tournait aussi vite avec une demi-lame, c'était totalement décentré, elle était incontrôlable. Je pouvais... Dans ma tête, je me disais, en fait, une demi-lame, quand ça tourne, ça coupe aussi, Je devrais pouvoir continuer. Non, mais réfléchissez. À l'allure où ça tourne, une demi-lame comme ça, parce qu'elle fait 51, ma lame, je sais. Donc la moitié, 25 et des poussières, qui tourne à l'allure où ça tourne, la taille que ça fait, ça va couper quand même. Ben non, j'ai pas pu. Je pouvais pas la maîtriser. J'ai essayé, je suis lourd, mais non. Ben, nos vies, c'est pareil. On se dit, bah, avec ma moitié, ça peut marcher. Non. C'est comme quand l'albatros veut décoller dans Bernard et Bianca, vous connaissez ça Il n'y a plus qu'à se jeter de la falaise. Voilà. Donc, qui va s'asseoir sur le trône? C'est la question. Parce que Christ, par contre, lui, c'est pas un putschiste. Il ne vient pas avec une armée en disant « Descendez, ce trône m'appartient !» Non. Il dit « Je suis là. » Et je frappe à la porte. Si tu entends, si tu ouvres, si tu m'invites, et si tu me dis, j'aimerais que tu t'assoies chez moi, alors je vais rentrer, on va partager un petit repas, et tout va changer. C'est ce qui s'est passé avec Zachée. C'est assis avec lui, Ils ont mangé, il n'a pas fait des leçons de morale. Tu te rends compte, tu es un collabo, tu as piqué l'argent de tes frères avec les Romains en plus, hein, sale collabo, hein, les Romains, vous êtes des Romains. Non. J'aimerais manger avec toi. C'est tout. Hein, et tout le monde était... Oh, il va avec ce... Oh là là, hein, c'est un malhonnête. Hein, je veux juste manger avec toi. Ce qui est magnifique, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à ce repas. Ça fait partie des choses que je veux faire un jour au ciel, c'est voir la vidéo de ce repas. Hein, j'ai toute une liste des choses que je veux faire quand je vais... Hein, ça, une longue liste, hein, on aura le temps. Hein. Non, vous imaginez, je sais pas, ils mangent ensemble, le gars il sort et il se met à distribuer ses sous. Là vous voyez que quelqu'un a changé. Hein. Parce que les gens qui sortent en disant « Vous savez, maintenant j'ai changé, merci, je suis devenu meilleur, super !» Et ouais, « Maintenant je suis meilleur, devenez meilleur comme moi hein !» Non, il sort, il fait pas de discours, il prend tout l'argent... Et il dit, tous les gens que j'ai volés, je vais leur rembourser le double. Waouh ! Ça, c'est quelqu'un qui a mangé et qui a bu. Hein ? Pourquoi les gens, je parle des riches et des très riches et des très très riches, souvent je me suis posé la question, c'est quoi comme maladie quand on a des milliards et des milliards de vouloir quelques milliards de plus ? Non, mais là aussi, hein ? Comme disaient mes amis roumains pauvres, quand il y avait des nouveaux riches en Roumanie qui se faisaient des maisons avec 28 chambres à coucher, ils me disaient, il peut dormir que dans une à la fois quand même. Hein hein et je veux dire, il y a un moment, c'est une maladie mentale. Hein mais pourquoi ? Parce que l'être humain, même tous ces gens-là, c'est juste des petits enfants qui ont peur. Qui ont peur qu'on ne les aime pas, qui ont peur de ne pas avoir assez, qui ont peur qu'on ne les respecte pas. Alors ils s'imaginent que parce qu'on dit qu'ils pèsent tant... Hein non, tout ce qu'on dit qui pèse, c'est des dettes. Ce qui pèse en réalité, c'est ouais, les quelques litres d'eau, un peu d'azote, un peu de ci, un peu de ça, un peu de potassium, qu'ils ont emprunté à la nature et qui rendront un jour, ça c'est sûr. Hein pèse rien du tout. Mais comme Zaché, comme tout, on veut se rassurer avec ça. Mais lorsque on a mangé, lorsqu'on est rassasié par le pain de vie, ben, on n'a plus peur, on n'a plus faim, on n'a plus soif. On aura encore faim et soif et on va remanger. Hein, mais... Et du coup, j'ai plus besoin de stocker ces choses qui ne me servent à rien, qui sont même... Ça me tire au fond, ça me fait couler, ça me détruit, ça me rend malheureux. Je peux les distribuer. C'est pas de l'altruisme de donner ce qu'on a en plus quand on n'en a plus besoin. Hein quand, moi ça ne m'arrive pas, mais quand les modes changent et que vous rachetez plein de vêtements et puis que vous donnez vos anciens, c'est pas de la générosité, hein. C'est juste pour faire de la place dans vos placards, parce que bah, y a pas assez de place pour vos 12 nouvelles paires de chaussures et vos 15 nouvelles chemises. Quoi. Donc vous les donnez aux pauvres. Hein voilà. Tandis que là, Zaché, c'est pas ça. C'est juste... Enfin si, c'est la même chose. J'ai plus besoin. Il distribue parce qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Hein et il sort de la vanité, du vide qui est en lui, et il peut être qui il est. En fait, je suis pas trop petit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vide. Hein on dit vaine, vide, c'est le même mot. Hein sa grâce n'a pas été vide. Elle a amené du contenu dans ma vie. C'est ça que ça veut dire. Et elle a agi en moi, parce que ce qui est vivant agit. Et puis, ben voilà, maintenant je vis comme ça. Et puis, c'est ce qui va m'aider aussi... accepter mon prochain, alors mon prochain c'est tous les autres hein, que je rencontre, c'est l'être humain que je croise, même si je le croise 10 fois par jour dans la maison parce que je suis marié avec, ou si je le croise une fois à la COP parce que c'est le caissier, ou dans la rue, ou même celui que je croise dans sa grosse voiture, hein, c'est aussi mon prochain, et je vais pouvoir lui donner le droit d'être qui il est, parce que ça peut paraître bizarre avec ce que j'ai dit au début, mais ce monsieur, dans sa vanité à 4 roues, ben il est comme moi, je suis comme lui, et Dieu lui donne le droit d'être comme ça, et l'aime comme ça, pour que peut-être dans quelques temps, il achète une Dacia. Électrique, à pédale même mieux. Un vélo, idéalement. Hein un cheval qui produit des choses utiles. Mais la réalité, c'est ça. Hein parce que oui, la poutre dans l'œil de mon frère, la paille dans l'œil de mon frère, je la vois, et puis la poutre. Hein, voilà. Seigneur, on te remercie parce que tu veux nous sortir de l'arrogance et de la vanité, et tu veux nous nourrir de toi, Seigneur. On peut pas, on veut pas te détenir, on veut pas avoir ou posséder la vérité, on veut juste t'appartenir. Et que tu vives en nous, et puis qu'on soit rassasié par le pain que tu es pour nos âmes, par qu'on soit désaltéré par l'eau que tu es pour nos vies intérieures, et qu'on puisse répandre cette nourriture éternelle, cette boisson d'éternité autour de nous, au présent, là où on se trouve. Et puis aide-nous à être tes ambassadeurs dans ce sens-là au cours de cet été, Seigneur. Et puis bah, tu vois qui nous sommes et tu nous prends comme nous sommes, tu nous acceptes comme ça. Et c'est le point de départ pour nous transformer à ton image. Alors garde-nous, conduis-nous et merci pour ce que tu es pour nous et ce que tu veux faire en nous, Seigneur Dieu.